Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre. Deux heures pour décompresser tout en s'instruisant avec en prime le rire délicat, je dirais même british, de Stéphane Bern. Bonjour Stéphane. Ah, on a bien ri hier, hein.
Oui, rira bien qui rira le dernier, Mathieu. Bonjour à tous. Comme chaque après-midi, on réunit trois personnages très différents qui ne se sont jamais croisés. Ils auraient bien eu du mal. Mais ils avaient un point commun. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de trois éternels insatisfaits. Le chanteur Nino Ferrer.
On dirait le sud. Le temps dure longtemps.
Qui, malgré ses succès, a toujours eu du mal à trouver sa place dans le paysage musical français.
Puis Stéphane, je crois savoir qu'avant lui, vous nous entraînerez au Japon. Fascinant Japon.
Oui, une musique que ne validerait certainement pas notre premier personnage du jour, l'artiste japonais donc, Katsushika Hokusai, un artiste qui a fait des vagues, surtout la grande vague de Kanagawa, sa plus célèbre toile et surtout un génie de l'estampe qui n'a jamais été satisfait de son travail. En tout cas, pas avant ses 77 ans.
Eh ben oui, puisqu'il n'était jamais satisfait, c'est sûr, une musique chinoise pour illustrer le Japon, il n'aurait pas kiffé. Mon personnage du jour le comprend lui aussi, c'est un perfectionniste, lui aussi il n'est jamais content, sauf peut-être quand même quand il reçoit son bulletin de paix. C'est Pep Guardiola, le coach de Manchester City, champion d'Europe en titre, et toujours pas satisfait.
Et avec nous, comme chaque jour, eux sont très satisfaits d'être en notre présence, on peut les comprendre. Elle nous entraîne tous les jours dans l'intimité des grands de ce monde, Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour à tous. Écoutez, moi je suis surtout très satisfaite de ma perspicacité, car il ne m'a pas échappé, contrairement à vous, manifestement.
Et par rapport à votre modestie, ça se...
Mais pour la modestie, je ne crains personne, mon cher, comme disait si bien Eric Satie. Donc il ne m'a pas échappé, disais-je, qu'on allait commémorer cette année les 20 ans de l'attentat du World Trade Center. Et il y a 20 ans, dans les mois qui ont suivi l'effondrement des Twin Towers, des équipes de nettoyage ont commencé à travailler sur la zone du sinistre pour préparer les fondations du nouveau One World Trade Center, la Freedom Tower, qui est devenu le plus haut gratte-ciel des États-Unis. Eh bien, en juillet 2010, lors de ce processus d'excavation et de nettoyage à près de 7 mètres de profondeur, des travailleurs, les ouvriers, ont trouvé un trésor archéologique, figurez-vous. Savez-vous de quoi il s'agit?
Ben non.
Et ben voilà, ben alors vous attendez tout à l'heure et vous le saurez.
Ça c'est très bien.
Avec nous, David Castel-Lopez qui remonte aux origines d'une invention.
Oui.
Et aujourd'hui, je vois qu'il y a du changement.
Tout à fait, c'est les origines du t-shirt.
C'est la première fois que je vous vois un t-shirt, David.
Oui, exactement.
Vous êtes à l'aise ou ça vous fait bizarre?
Vous sentez tout nu, non?
Je me sens déguisé.
Le condor est devenu cacatoès, là, regardez-moi.
On ne sait pas très bien ce que ça veut dire.
Je sais pas si. Non, c'est pas flatteur, je crois.
Je crois parce que cacatoès. Oui. Façon, qu'est-ce qui peut
Condor,
être flatteur avec un dos comme ça?
Et cacatoès, ouais, on voit mal en quoi c'est flatteur.
Oui, c'est la couleur peut-être du t-shirt.
Mais vous vous liguez contre David?
Oui,
c'est dégueulasse.
Je suis le Manuel Valls de cette émission.
Oui, c'est honteux.
C'est de l'humour. Avec nous également, Olivier Pouls. On remonte aux origines d'une recette, d'un plat, d'un mets.
Oui, et je vous emmène en voyage. Je vous emmène dans les îles. Nous allons parler du rougail saucisse. Est-ce que vous connaissez cette spécialité?
Vous voyez, le cacatoès a tout à fait sa place dans cette histoire.
Mais le rougail saucisse, j'en ai entendu parler, je ne sais pas ce que c'est.
Eh ben, vous le saurez tout à l'heure. Là aussi, teasing, voyez-vous.
Teasing, vraiment, ça donne envie. Hein, les Twin Towers, on en parlait, c'est les Twin Towers, c'est comme ça aussi qu'on pourrait surnommer le tandem comique Bern Portier-Kaltenbach. Des sommets de culture générale qui, un jour, au détour d'un quiz à la con, s'effondrent comme des châteaux de cartes. Bern to be alive, ce sera comme d'habitude aux alentours de 5h-10. Mais tout de suite, direction le Japon, Stéphane Bern nous présente quelqu'un qui a passé sa vie sans être jamais satisfait. Artiste, hors norme, peintre, dessinateur, graveur, tout ce qu'il a produit ne semblait pas à l'écouter assez bien pour lui. C'est un Stéphane Bern, lui, pleinement satisfait, qui nous présente celui qui a pourtant laissé son nom dans l'histoire japonaise et l'histoire de l'art du monde entier, l'artiste Katsushika Hokusai.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Tout le monde ne connaît peut-être pas le nom de Katsushika Hokusai, mais nombreux sont ceux qui ont sans doute contemplé au moins une fois dans leur vie la plus connue de ses œuvres, la Grande Vague de Kanagawa. Une déferlante au bleu intense et couverte d'écume qui part de la gauche pour aller s'abattre sur des bateaux de pêche à droite, tandis qu'on distingue au loin la silhouette du mont Fuji. Cette image occupe toujours une place fondamentale dans l'histoire des arts graphiques et beaucoup l'ont imitée ou s'en sont inspirés. Monet et Van Gogh en avaient tous les deux acquis un exemplaire. Gauguin ne jurait que par elle et Debussy l'avait sous les yeux en composant l'une de ses œuvres majeures en 1905, La Mer. Andy Warhol, quant à lui, s'en est emparé avec ses polychromes et même Hergé lui a fait un clin d'œil dans Les Cigares du Pharaon lorsque Tintin est à deux doigts d'être englouti par une vague qui imite le trait de Katsushika Hokusai. Mais cette estampe, qui vient d'une série de 36 vues du Mont Fuji publiée en 1830, c'est l'arbre qui cache la forêt d'une œuvre immensément riche. Elle compte près de 30 000 dessins en tout genre, de la gravure au croquis, en passant par la peinture classique ou par des images parfois aussi curieuses que coquines. Celle qui montre une jeune femme nue engagée dans une drôle d'étreinte avec un poulpe est d'ailleurs une autre de ses œuvres érotiques les plus célèbres, Le rêve de la femme du pêcheur. Si l'héritage d'Hokusai est aussi riche, aussi varié, aussi dense, c'est d'abord parce que l'artiste s'est éteint en 1849 à 88 ans, un âge plus que respectable dans le Japon de son époque. Mais c'est aussi parce que Hokusai a constamment exploré de nouvelles voies au cours de cette longue existence, imaginant sans cesse de nouvelles manières d'atteindre la beauté absolue. Cette quête du très parfait, celui qui s'était lui-même baptisé Gwakyo Rojin, le vieillard fou de dessin, l'a résumé à la fin de sa vie pleinement insatisfait. « Tout ce que j'ai produit avant 70 ans ne vaut pas d'être compté. C'est à 73 ans que j'ai compris à peu près la structure de la nature vraie des animaux, des herbes, des arbres, des oiseaux, des poissons et des insectes. À l'âge de 80 ans, j'aurai enfin fait plus de progrès. À 90 ans, je pénétrerai le mystère des choses. Et quand j'aurai 110 ans, soit un point, soit une ligne, tout sera vivant. » On ne sait que peu de choses de son enfance, mais on sait que Hokusai est né en 1760 dans un quartier de l'Est d'Edo, l'ancien nom de Tokyo, qu'il a été adopté très jeune par un fabricant de miroirs avant d'entrer comme apprenti dans un atelier de gravure sur bois. C'est là qu'il s'est formé à l'art de l'estampe, ces images très populaires dans le Japon du temps des shoguns. C'est aussi là qu'il a pris une habitude qu'il a gardée toute sa vie, celle de changer d'identité à chaque fois qu'il changeait de style, de genre, de technique ou d'inspiration. Ce nom d'Hokusai, qui est une référence à l'étoile polaire sacrée à ses yeux, n'est que le plus connu des 120 noms d'artistes qu'il a pris dans sa vie. Cela vaut de beaux casse-têtes aux historiens de l'art, mais cela en dit long sur la variété inouïe de son travail. C'est bien simple, Hokusai a tout fait et a tout exploré sur tous les supports, des estampes, du dessin, des livres illustrés, des paysages, des portraits de belles élégantes et d'acteurs du kabuki, le théâtre japonais, vous savez, des gravures de vœux, des manuels techniques et des carnets entiers de croquis comme les fameux Hokusai manga, un mot qu'il est le premier à avoir utilisé dans l'histoire du Japon. Grand voyageur, il a passé sa vie à parcourir les routes du Japon pour en dessiner les paysages, mais aussi les habitants. Tout un peuple de petits et de grands personnages, des courtisanes en promenade jusqu'aux portefeuilles et aux ouvriers des faubourgs, en passant par ses pêcheurs ou ses artisans, à qui il donne une existence sur le papier. Donc une place dans l'art japonais. À cette époque où le Japon s'est volontairement fermé à l'Occident, il fait aussi partie des rares artistes à s'intéresser aux arts européens grâce aux commerçants hollandais, les seuls étrangers admis dans le pays à cette époque. De l'art occidental, il emprunte les lignes de fuite et l'art de la perspective. Il reprend aussi le bleu de Prusse, ce bleu profond qu'il utilise dans la vague de Kanagawa dont nous parlions un peu plus tôt. C'est aussi lui qui rompt avec les stéréotypes du portrait, en retrouvant au bout de ses ciseaux à bois ou de ses pinceaux un style plus expressif, qui redonne du réalisme à ce dont il dessine les traits. Il se rapproche aussi des écrivains et des poètes, à qui il fournit une source d'inspiration pour les célèbres haïkus, grâce à ses thèmes de prédilection, les plantes, les vagues et les montagnes, à commencer par le célèbre Mont Fuji, le plus sacré des sommets du pays. En 1805, Hokusai participe à la magnifique réédition d'un des grands classiques de la littérature japonaise, Les Contes au bord de l'eau. Avec le temps, son travail se fait toujours plus fin, son trait toujours plus aérien et délicat, même si Okusa ne déteste pas faire dans l'excentricité ou dans le monumental, comme lorsqu'il se lance dans un travail destiné au temple Gokoku, près d'Edo. Au sol, Okusa est en 350 mètres de papier sur lequel il se déplace avec un balai plongé dans l'encre. Quand il redresse enfin l'œuvre sur son immense cadre, les curieux découvrent stupéfaits un immense portrait de Daruma, le fondateur du bouddhisme zen. On dit qu'il serait capable de peindre une volée de moineaux sur un grain de riz. On raconte aussi, ce qui n'est peut-être qu'une légende, mais qui en dit long sur sa réputation, un des plus grands shoguns du Japon, un général si vous préférez, l'aurait invité à une sorte de confrontation avec un autre des grands peintres de son temps, Tanibunshō. Pour démontrer son art, Okusai aurait fait démonter une de ces portes coulissantes en papier qu'on trouve dans les maisons japonaises traditionnelles avant de la balayer d'encre bleue, puis de promener un coq à la surface, les pattes enduites de peinture rouge. Une fois le panneau redressé, l'assistance aurait alors découvert une vue saisissante de la rivière Tatsuta, couverte de feuilles rouges que l'automne faisait alors tomber des érables. Mais s'il a été célèbre de son vivant, Okusai n'a pas eu une existence particulièrement heureuse, notamment dans la dernière partie de sa vie, à partir des années 1820. Il connaît d'abord une série de drames personnels. Sa femme et l'une de ses filles meurent. Il se remarie avant de divorcer, paye les dettes de jeu que son petit-fils accumule, mais surtout la crise économique qui touche le Japon à partir de 1830 le frappe de plein fouet au moment où une nouvelle génération d'artistes vient concurrencer son travail. À 70 ans passés, il en est réduit à vendre ses dessins dans la rue pour survivre. Pire encore, son atelier est ravagé en 1839 par un incendie qui détruit une partie de son œuvre. Et pourtant, rien ne semble abattre ce vieillard fou de dessin. On raconte qu'en pleine nuit, lorsqu'il a découvert que son atelier brûlait, il n'a rien emporté d'autre que ses pinceaux, comme si tout restait encore à peindre. Jusqu'à son dernier souffle, il a cherché encore et toujours de nouvelles manières d'atteindre le sommet de son art en dessinant un univers cette fois plus fantastique, peuplé d'animaux mystérieux, de tigres et de dragons. Et sur son lit de mort, quelques jours avant de disparaître, au printemps 1849, il murmurait encore que si le ciel lui avait accordé encore 10 ans de vie ou même 5, il aurait pu devenir un véritable peintre. C'est aussi dans ses derniers moments qu'il a composé ce qui est peut-être l'un des plus beaux haïkus de la poésie japonaise. Tel un fantôme, je foulerai d'un pas léger les champs d'été.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Katsushika Okusai, nous sommes avec Amélie Balcou. Bonjour Amélie.
Bonjour.
Bonjour Amélie Balcou, vous êtes historienne de l'art, auteure du beau livre Okusai, les 36 vues du Mont Fuji, paru aux éditions Hazan, et vous travaillez actuellement sur une biographie qui lui sera consacrée. Une biographie qui pourrait s'appeler, c'est une proposition, hein, c'est pas une invitation, le vieillard fou de dessin, comme il aimait à se cataloguer lui-même. Vieux il l'a été, fou de dessin aussi, au point d'être aujourd'hui reconnu comme l'un des grands maîtres de l'art nippon.
Oui, en effet, Okusai, c'est incontestablement l'artiste japonais qui est le plus célèbre en Occident. Même sans connaître son nom, vous le disiez, chacun a vu sa grande vague de Kanagawa. Et en France, il a été connu assez tôt, en grande partie grâce au livre qu'a rédigé Edmond de Goncourt sur Okusai. Mais c'est un artiste qui est très énigmatique, tout simplement parce qu'on manque énormément de sources directes. Donc c'est vous dire toute la complexité qu'il y a quand on veut parler de cet artiste qui est pourtant célébrissime, comme vous l'avez dit.
Alors Amélie Balcou, Okusai est surtout célèbre pour ses estampes. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu ce qu'est une estampe et comment ça se fabrique en fait ?
Bien sûr, alors l'estampe c'est un procédé qui fait appel à ce qu'on appelle la technique de la gravure sur bois et qui permet de reproduire une image par impression. En fait, en utilisant un dessin, un sculpteur va sculpter plusieurs blocs de bois qu'il va tremper dans de l'encre et apposer sur une feuille. Et chaque bloc va être dédié à une couleur. On aura bien sûr le bloc qui va servir à définir les lignes noires de l'estampe et les autres blocs qui vont servir pour les aplats colorés. C'est en fait le même principe qu'avec des tampons, si vous voulez, qu'on va apposer successivement sur une feuille. Et la particularité, c'est que le graveur va s'aider du dessin pour réaliser le premier bloc, vous savez, avec les lignes noires, en fixant le dessin sur le bloc. Et donc, malheureusement, le dessin va être détruit pendant cette manœuvre. Et c'est la raison très simple. pour laquelle, imaginez un petit peu la perte, nous n'avons plus les dessins qui ont servi à réaliser les estampes de Kusai, parce qu'en fait, ils ont été détruits dans ce process. Et je peux vous donner aussi une dernière petite particularité de Kusai, c'est qu'avant de devenir dessinateur et peintre, il a été lui-même graveur sur bois dans sa jeunesse, et c'est comme ça qu'il s'est familiarisé avec cette technique, et vous savez qu'il a laissé l'image de quelqu'un d'un petit peu capricieux, mais on peut penser qu'en fait, c'est à cause de ça qu'il s'est montré si exigeant avec ses éditeurs lors de l'impression des estampes qui ont été réalisées d'après ses dessins.
Je le disais en ouverture de mon récit, si on ne retient pas son nom, beaucoup ont déjà vu la grande vague de Kanagawa, le tableau le plus célèbre de Kusai, premier des 36 vues du Mont Fuji. Pourquoi ? Et en quoi ce tableau se démarque des autres ? Et qu'est-ce qu'il nous raconte en réalité ?
Oui, effectivement, c'est l'œuvre qui a vraiment popularisé Okuzai. Aujourd'hui, on ne compte plus les objets dérivés qui présentent la grande vague de Kanagawa. Si je dois la décrire, en fait, cette estampe, elle présente trois petits bateaux de pêche qui sont dans le creux d'une vague monumentale qui s'apprête à s'abattre sur eux. Alors, on ignore leur destin, mais on espère évidemment qu'il sera favorable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ici la fragilité de la vie humaine qui s'oppose à une nature supérieure et imprévisible dont l'homme, ici le pêcheur, dépend. Et à l'arrière-plan, on retrouve le mont Fuji, immobile, immuable, comme s'il gouvernait cette scène. En fait, c'est tout un jeu d'opposition, si vous voulez, entre l'éternel, c'est-à-dire une nature supérieure, qui se renouvelle constamment par le cycle des saisons, mais aussi dont dépend l'homme, et l'éphémère, la vie humaine, l'instant présent.
Ce tableau, on sait s'il lui plaisait à Okusai, ou comme beaucoup d'autres, il aurait pu se dire « ouais, pas mal, mais peut mieux faire ».
C'est une question difficile parce qu'on n'est pas dans la tête de Kusai, mais en tout cas, on peut penser que s'il a fait éditer cette œuvre, c'est qu'il en était tout de même satisfait. Et il dit d'ailleurs, avec le recul de la vieillesse, évidemment, dans la citation que vous avez lue tout à l'heure, il dit donc qu'il est mécontent de tout ce qu'il a produit avant ses 70 ans et considère qu'il fait des progrès par la suite. Et il dessine ses 36 vues entre ses 71 et ses 73 ans, donc à l'époque à laquelle il considère qu'il commence à faire des progrès.
Alors, dans votre livre, Amélie, vos premiers mots sont ceux-là. Lorsque le génial Okusai publie au début des années 1830 sa célèbre suite colorée des 36 vues du Mont Fuji, il parvient à l'apogée de sa carrière et bouleverse l'art de l'estampe. Génial, il l'était, mais il a toujours été le seul à en douter finalement. Comment vous expliquez son côté insatisfait ?
Alors en réalité, je crois que s'il faut chercher un côté insatisfait dans son œuvre, ce serait plutôt dans la profusion de dessins qu'il a réalisés. Je pense qu'on peut qualifier Okusai de véritable boulimique du dessin. Il lui en faut toujours plus. Il a été un artiste incroyablement prolifique. Nous avons parlé de ses paysages, mais en fait, il s'est essayé à tous les genres. Il a fait des images de belles femmes, des acteurs, des sumos. Il a aussi illustré des romans, des scènes de la vie quotidienne. Il a même fait des dessins d'architecture, des caricatures. Il a aussi dessiné des monstres, et on pensera par exemple aux estampes de ces 100 histoires de fantômes qui plairont sans doute, s'il y en a parmi vos auditeurs, aux fans de yokai. Les yokai, ce sont des monstres japonais qui ont été très popularisés en France, notamment grâce au dessinateur très connu Shigeru Mizuki. Et on peut aussi penser, évidemment, vous l'avez dit, à la fameuse manga d'Okusai, qui est peut-être sa deuxième œuvre la plus célèbre. Ce sont en fait 15 volumes composés de plus de 3900 croquis très divers. Et puis on oublie qu'il a fait aussi un grand nombre de peintures. Et d'ailleurs, je peux vous donner une petite anecdote sur Okusai qui est vraiment révélatrice de son besoin vital de dessiner ou de peindre constamment. À la fin de sa vie, il réalisa beaucoup d'esquisses de shishi. Les shishi, ce sont ces lions gardiens qui ont une esthétique très caractéristique. Et il qualifiait alors ses dessins d'exorcisme quotidien, comme s'il voyait en eux une protection contre la maladie et la mort. C'est tout dire de son besoin viscéral de créer. Et ce qui est fascinant chez cet artiste, c'est qu'il est en recherche permanente, vous l'avez dit. On peut observer plusieurs évolutions profondes de son style durant sa carrière. On sent bien qu'il cherche, il essaie constamment d'évoluer.
Beaucoup de ses œuvres mettent la nature au premier plan, n'est-ce pas ? Surtout à la fin, il y a des animaux mystérieux, des éléments végétaux, des paysages. Alors le mont Fuji, évidemment, puisqu'il y a 36 vues, mais à mon avis, il y en a beaucoup plus. Il n'est pas le premier à le faire, mais il l'a fait mieux que les autres, non ?
Est-ce qu'il le fait mieux que les autres ? Je ne sais pas, parce que les talents, ça ne se compare pas. Mais ce qui fait en tout cas tout le caractère novateur des 36 vues du Mont Fuji, c'est qu'Okusai donne au paysage un rôle de premier plan, alors que ce genre était jusque-là encore sous-estimé. La suite a été luxueusement imprimée en grand format, et Okusai fait un usage très abondant du bleu de Prusse. C'était un pigment artificiel importé de Hollande et utilisé à Edo, l'actuel Tokyo. À peine depuis quelques années, ça a commencé à être utilisé en 1829, donc 2-3 ans avant les 36 vues du Mont Fuji. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un pigment qui était beaucoup plus intense et profond que les bleus naturels qui était utilisé jusqu'alors et qui avait tendance à être non seulement un petit peu fade, mais qui se ternissait aussi très rapidement. Et d'ailleurs, c'est ce bleu de Prusse qui va donner toute sa force à la vague de Kanagawa. Et l'éditeur de Kusai a même lancé, parallèlement à la version colorée des 36 vues du Mont Fuji, une édition de cette série qui sera formée de nuances, uniquement de nuances de bleu. Et ensuite, on connaît le succès de cette suite qui renouvelle complètement le genre du paysage.
On a l'impression qu'Okusai est un artiste qui a continuellement cherché à faire évoluer son trait. Il a exploré tous les styles, s'est essayé un peu à tous les formats. Il a fait des œuvres érotiques et puis le Mont Fuji, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il y a toutefois une constante dans ses œuvres?
Oui.
Un fil directeur?
Alors en réalité, Okusai a réalisé assez peu d'estampes érotiques. Il est vrai qu'il a laissé cet exemple mémorable dont vous avez parlé, qui a marqué Goncourt, mais aussi Théophile Gautier, qui en a laissé un texte bien connu. En France, c'est cette estampe qu'on connaît sous le nom du rêve de la femme du pêcheur. En fait, ça représente ce qu'on appelle une AMA, en trois lettres, A-M-A, c'est-à-dire une plongeuse qui va chercher des coquillages au fond de la mer en retenant sa respiration. Ah. Et c'est une profession qui existe encore aujourd'hui. Et si je vous donne une petite anecdote de cinéma, récemment, le réalisateur Park Chan-wook a fait une petite allusion à cette œuvre dans son film Mademoiselle. Voilà, une petite allusion. Mais pour revenir à votre question, quant à la constante qu'on pourrait observer dans ses œuvres, c'est assez difficile parce que, comme nous l'avons dit, son style évolue constamment. Mais je crois qu'on peut observer une volonté constante, c'est celle de transmettre une émotion, souvent par le mouvement, comme s'il voulait donner vie à ses dessins. Et d'ailleurs, pour revenir à la phrase que vous avez déjà citée, il dit qu'à 110 ans, il aura fait tellement de progrès que, soit un point, soit une ligne, tout sera vivant.
J'ai vu l'intérêt que Monet, Van Gogh ou Gauguin avaient montré pour le travail de Okusai. Est-ce qu'il a inspiré d'autres artistes que l'on connaît? Est-ce qu'il inspire encore des artistes aujourd'hui surtout?
Oui, vous avez déjà souligné qu'Okusai avait eu une influence énorme sur les artistes occidentaux jusqu'à Don Tintin. Et même aujourd'hui, la grande vague d'Okusai, elle a pleinement intégré notre univers visuel. C'est une œuvre qui est constamment revisitée et transformée, un peu comme la Joconde. Elle a même été reproduite encore l'année dernière en Lego. Et elle influence encore aujourd'hui les artistes de street art, mais aussi la mode. Elle a servi de modèle pour un logo qu'on connaît tous. Mais en tout cas, les fans de surf le reconnaîtront certainement. Et bien sûr, c'est sans parler de l'influence de sa manga sur la bande dessinée et sur les mangas actuels.
Mmh. Eh ben, merci beaucoup Amélie Balcou d'avoir décrypté pour nous le génie d'Okusai. Je rappelle votre ouvrage « Okusai, les 36 vues du Mont Fuji » paru aux éditions Azan et vous travaillez actuellement sur sa biographie qui paraîtra dans quelques mois. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi sur Europe 1.
Merci à vous.
Je vous en prie.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qu'elle creuse. C'est toujours... toujours plus profond. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous avez tellement creusé que vous êtes tombée sur un trésor, alors pas n'importe où, là précisément où se trouvaient il y a encore 20 ans les Twin Towers de New York.
Et oui, aujourd'hui, à cet endroit s'élève la Freedom Tower, 541 mètres de haut, le plus haut gratte-ciel des États-Unis. Mais alors, en effet, on a creusé auparavant, on a creusé à près de 7 mètres de profondeur. Et là, on tombe sur la coque d'un grand navire. Alors, quand on est tombé sur ces restes archéologiques, les travaux, évidemment, ont été immédiatement interrompus dans cette partie du chantier pour qu'on puisse examiner ce dont il s'agissait. On rassemble des échantillons du bois de la coque du navire et on a pu déterminer grâce à la dendrochronologie, vous savez, c'est-à-dire qu'on regarde les anneaux du bois et ça permet de savoir très précisément de quelle année date ce bois. Eh bien, on a pu déterminer qu'il avait été fabriqué, ce bateau, à la fin des années 1700 et même très précisément 1773, c'est-à-dire très exactement l'année où a été signée la déclaration d'indépendance des États-Unis à Philadelphie. Donc ce bois datait de la même année. C'était du chêne. Et on a pu constater aussi, c'est ça qui est magnifique dans cette histoire, que c'était très exactement le même bois qui avait servi à construire l'Independence Hall, c'est-à-dire l'endroit où les pères fondateurs ont signé la Déclaration d'indépendance et la Constitution des États-Unis en 1700, 1976. C'est quand même extraordinaire de penser que le bois de ce bateau sous les Twin Towers, c'était du chêne de Philadelphie, même chêne qu'on a utilisé pour l'Independence Hall. Vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire cette histoire? Non, mais cachez votre joie et votre...
Ah non, mais c'est une joie intérieure. On l'a
il restait quoi du bateau?
Alors, il restait quand même pas mal parce que, et en tout cas, c'était passionnant parce que les Américains n'ont conservé que quelques navires de la fin du 18e. On ne sait pas grand-chose sur la façon dont étaient construits les navires à l'époque. Donc, ce Manhattan Ship, c'est le nom qu'on lui a donné, offre un excellent aperçu de la construction navale américaine. En fait, il y a une explication sur sa présence à cet endroit-là et aussi profond. C'est parce que quand Manhattan a commencé à se développer, l'Hudson coulait exactement à l'endroit où ont été construites les Twin Towers bien des années plus tard. Mais toute cette zone-là était complètement sous l'eau. Ça se voit sur d'anciennes cartes du 18e. Mais plus Manhattan grandissait, plus on a été dans l'obligation, la nécessité de gagner des terrains constructibles. Et du coup, on a asséché certaines zones, et notamment les berges. Et donc, du milieu des années 1700 au milieu des années 1800, on a commencé à remplir toute cette zone le long de la rivière Hudson, un peu comme on ferait des polders en Hollande, si vous voulez. Donc, on ne sait toujours pas si le bateau a coulé par accident ou si, en fait, il a été intentionnellement immergé parce qu'on utilisait toutes sortes de débris pour boucher, pour renforcer les berges, pour les remplir, si vous voulez, et en faire une zone de construction. En tout cas, ce qu'on sait également, c'est là où la science est vraiment extraordinaire aussi, c'est qu'on a trouvé des huîtres sur la coque du navire, qui atteste que le navire flottait toujours dans la rivière Hudson avant d'être finalement recouvert de déchets et de gravats. Et de même, on a trouvé des verres d'eau chaude et salée du type Lyrodus pedicellatus, qui montre que ce bateau a frayé dans la mer des Caraïbes. C'est pas beau, ça? En tout cas, pendant qu'on exhumait ce vieux navire datant des débuts de l'histoire de l'indépendance américaine, un navire militaire américain a été construit avec les restes des tours jumelles. Vous saviez ça, messieurs ?
Ah non.
Oui, alors, il a été, évidemment, il a été construit en hommage et à la mémoire des disparus du World Trade Center. 24 tonnes de ferraille provenant des deux tours ont été fondues pour mouler la proue du navire, et c'est un navire qui a été lancé en 2014, c'est un navire de guerre destiné aux missions spéciales antiterroristes. Son nom, le USS New York, et la devise « Never forget ». Il a participé à une cérémonie d'hommage aux victimes en tirant une salve de 21 coups de canon. Et là, au moment où nous parlons, je pense qu'il est probablement amarré quelque part dans la baie de New York et il va très vraisemblablement participer aux cérémonies qui auront lieu dans les jours qui viennent en souvenir de cet attentat du World Trade Center qui portait dans ses fondations, dans ses racines, un bateau lié à la déclaration d'indépendance des États-Unis. Voilà, ça c'est des mystères comme seul. Oui, ouais. L'histoire en offre parfois.
Et elle est retombée sur ses pattes comme un chat. Merci beaucoup Clémentine.
Merci Clémentine, vous restez avec nous. Le quiz aujourd'hui sur Via est fait pour vous puisqu'on va parler de Bonaparte. A tout de suite.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
C'est vrai que c'est une femme qui a de nombreux vices.
La cigarette, l'alcool, oui. le whisky, oui. les chips.
Oui, mais une qualité. Une qualité, l'érudition historique. Elle nous le prouve chaque jour aux dépens de Stéphane dans Burn to be Alive. Jouons, Stéphane, à ce délicieux quiz. La première question est pour vous, elle est faite pour vous. Elle est à la 42e place dans l'ordre de succession au trône britannique. Je vous présente la très charmante Lady Amelia Windsor, 26 ans, petite fille du prince Edward, duc de Kent, lui-même petit-fils du roi George V. Aussi surprenant que ça puisse paraître vu son rang, elle a 3 piercings. Vrai ou faux ?
Oui, certainement, mais c'est pas une question d'histoire, là.
Comment ça, c'est pas une question d'histoire ? Je vous parle de la petite fille du prince Edward. Enfin, Stéphane, on est au cœur de l'histoire, comme dirait l'autre.
Oui, je vais dire oui. Vous avez été voir.
Mais écoutez, Stéphane, je vous pose une question précise.
Si ça se trouve, elle en a plus que ça.
Vous êtes un expert de
la
famille.
Elle en a dans la paupière, dans la langue, dans
le nombril.
Vous voulez
savoir combien elle en a de visible et combien elle en a d'invisible.
N'essayez pas de compliquer inutilement la question. La question,
bon,
cette
oui,
personne a
oui.
trois piercings, bref,
oui.
fou.
Vous avez...
Quand je pense qu'il se présente comme un expert non, des familles royales. Mais voilà Stéphane, voilà votre
ça,
imprécision exposée au grand jour.
C'est que faux. Je sache.
Des piercings. Vous imaginez Lady Amelia Windsor avec des piercings.
Mais oui, mais bien sûr.
Mais c'est faux, c'est honteux
Lady
Stéphane.
Lady Amelia, princesse rebelle.
Par contre, Elle n'a pas de piercing. Bon. Mais vous auriez dû savoir qu'elle avait 4 tatouages. On l'a découvert en 2013, au bal des débutantes, à l'hôtel Crillon, à Paris. Elle a été désignée par le journal Tatler comme « the most beautiful member of the royal family ». Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Castagnac.
Mais elle a 3 piercings, mais on ne les voit pas.
Ah, et vous les avez vus.
Oui.
Restons dans la maison Windsor. Le prince Charles a beau ne pas être dans le besoin, il n'en déteste pas moins le gaspillage. Il a même avoué avoir la même paire depuis 1971. Je parle évidemment de ses chaussures. Vrai ou faux ?
Écoutez, je pense que lorsqu'on est le prétendant au trône d'Angleterre et qu'on a la chance d'appartenir à une nation qui est réputée pour la qualité de ses souliers, eh bien, on peut en effet posséder une paire de chaussures qui vous accompagne depuis 50 ans. C'est tout à fait possible. Il doit les faire
comme un ambassadeur de la qualité de la chaussure.
Il doit pouvoir les faire ressemeler de temps en temps. C'est peut-être une paire qui lui a été offerte par Camilla. Alors, il y est très attaché.
Oh, on les a même fait... de la paire, voilà. C'est quand même incroyable.
Et ou alors qu'il lui a été offert.
Camilla, si vous voulez, c'est old flame, c'est-à-dire elle lui a offert ses chaussures avant qu'ils aient une relation.
Et voilà. Eh ben, oui, donc elles peuvent en souvenir, il les a conservées dans son dressing. Donc je réponds yes, of course.
Vous répondez oui.
Vous avez gagné.
Stéphane, voyez ce que c'est qu'une vraie experte de la famille royale. Voilà quelqu'un qui s'y connaît un petit peu. Effectivement, bonne réponse.
Il a comment même osez-vous dit sur des piercings et des tatouages.
Ah, écoutez, les chaussures, ça vaut les piercings.
Il faut être tout sujet. On ne jette rien chez les Windsor. Mais
il a même dit avoir gardé une veste depuis plus de 50
Qu'est-ce
ans.
Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Vous croyez que ça m'intéresse ?
Les
pompes des Windsor ?
En tout cas, 1-0. Question numéro 3 pour vous, Stephen Byrne. Oh, la question sur Bonaparte, elle n'est pas pour vous, elle est pour Stéphane. Dans la famille Bonaparte, donnez-moi un sénateur du Second Empire. Je voulais évoquer Napoléon Jérôme Bonaparte. C'est le cousin germain de l'empereur Napoléon III. Eh bien, il avait un surnom étonnant.
Oui, Plom-Plom.
Ah oui.
Oui, mais est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Il avait un surnom étonnant, Plom-Plom.
Bah oui, c'est Plom-Plom, tout le monde le connaît comme Plom-Plom.
Bah bien sûr, tout le monde connaît Plom-Plom.
Ah non, franchement, il y a eu des biographies, oui.
Plom-Plom, il y a eu une
biographie. Non, il n'y a pas une biographie,
lui a pas
mais c'était son surnom.
Mais on a écrit beaucoup de livres sur ce personnage intéressant, parce qu'on disait qu'il était encore plus bête que...
Oui, il n'était pas passionnant. Hein.
Vous avez...
Oh oui, c'est une bonne réponse, Stéphane. C'était sa maman qui, à l'origine, lui avait donné ce petit surnom de Plom-Plom. On s'est un peu moqué de lui à ce sujet.
Bah oui,
aujourd'hui, il faut savoir que Napoléon Jérôme Bonaparte a une variété de poires à son nom. Oui. Quand ça veut pas, ça veut vraiment pas. Question numéro 4. Un partout. Donc. Clémentine, pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, le mouvement romantique est à son apogée. En Grande-Bretagne, le comble du chic, c'est d'avoir dans son jardin un SDF qui se fond dans le décor pour montrer qu'on glorifie l'antimatérialisme. Vrai ou faux ?
Je pense que dans la littérature un peu gothique de la fin du XVIIIe, où on aime les cryptes, le mystère, peut-être qu'il y a une passion aussi pour les bas-fonds et pour... alors, avoir un SDF dans son... Peut-être que... Ou alors, est-ce que c'est par... Est-ce que c'est au contraire des courants un peu idéalistes et chrétiens qui font qu'on se dit qu'il faut charitablement accueillir un SDF ? Écoutez, ça ne me dit rien du tout. Alors si ça n'est pas accueillir un SDF, ça serait accueillir quoi dans son jardin ? Ça serait avoir une tombe dans son jardin, ça serait quelque chose d'un petit peu gothique comme ça. Mais je réponds quand même oui, ça ne s'appelle pas un SDF, mais oui.
Réfléchissez bien. Avoir un sans-abri dans son jardin, est-ce que c'était la mode et c'était le comble du chic dans l'Angleterre du XVIIIe siècle ?
Non, moi je pense que ce qui est le comble du chic, c'est d'avoir un beau jardin et éventuellement d'avoir... Je dirais éventuellement avec cette littérature des cimetières qui est très très à la mode fin 18e. Vous voyez, on en a déjà parlé avec Marie Shelley et donc c'est plutôt avoir une fausse tombe dans son jardin, oui, mais avoir un SDF. Alors, je réponds non.
Vous répondez non de votre plein gré.
Vous avez... perdu.
Vous êtes vraiment un salopard.
Quel dommage, mais vous étiez si près de la bonne réponse. Mais non, mais oui, c'est vrai. Et oui, on avait un SDF dans son jardin, c'était Sochik. Généralement, les ermites sont embauchés pour 7 ans. Ils vivaient dans une petite cabane au fond du jardin, il ne fallait pas se couper les cheveux ni la barbe. En 1730, la reine Caroline, l'épouse de George II, a un poète ermite dans son jardin. Ah, il s'appelle Stephen Duck. Déprimé, il finit par se suicider en se jetant dans la Tamise.
Égalité, c'est bien ce que vous vouliez.
Égalité, question 5. Alors ça, vraiment, c'est la surprise. En 2015, sur le site archéologique d'Oririnkos, en Égypte, que vous connaissez bien, a été trouvé 39 papyrus. Après 3 ans de recherche pour déchiffrer leur contenu, de quoi parlaient ces précieux écrits datant du 2e siècle ? 4
propositions.
C'était des recettes pour éviter la gueule de bois. C'était une notice pour fabriquer un four à pain en bois. C'était des conseils pour draguer une égyptienne. Ou c'était une critique sans concession sur les éoliennes. C'est la réponse de Stéphane. Donc c'était des recettes
peut-être
pour éviter la gueule de bois.
Un truc pour draguer, moi je dirais.
Pour draguer les égyptiennes.
3, non.
Je vous donne la possibilité d'une autre réponse.
4.
2, 4, 6, 8. Et non, c'est Stéphane Bern qui gagne avec la première réponse. C'était la bonne, c'était des recettes pour éviter la gueule de bois. Le conseil était le suivant. Porter une amulette autour du cou avec à l'intérieur du laurier d'Alexandrie, une technique qui, évidemment, on le sait aujourd'hui, ne fonctionne pas.
On a mis
pas.
3 ans pour déchiffrer ça, ça m'a dit donc.
Ben, oui, on a mis
c'est
du
pas
temps.
Champollion. Mmh.
On a mis du temps. Bravo Stéphane, vous
je
remportez
merci, oui,
le quiz
bah,
avec
Rikino, Brio. Si tu connais ça par cœur, en même temps, c'est pas juste.
Hein. 16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter. Un peu finalement comme nos personnages du jour, Mathieu.
Oui, comme nos personnages, j'ai cru comme nous, je me suis dit il est gonflé. Non, comme nos personnages du jour, oui, qui étaient d'éternels insatisfaits.
Après l'artiste japonais dont vous connaissez vaguement l'œuvre, à l'exception de sa grande vague, Katsushika Honkuzai, je vous raconte l'histoire d'un merveilleux chanteur français dont vous connaissez, j'en suis sûr, Mathieu, les chansons par cœur.
On dirait le sud. Le temps dure longtemps.
C'est Nino Ferrer qui a toujours souffert de son perfectionnisme, un perfectionnisme maladif. Et connaître le succès tout en restant insatisfait, c'est pas si rare, hein, Mathieu.
Mais non, Stéphane, prenez David Castello-Lopez. J'aurais presque pu faire son portrait aujourd'hui, mais non, car en termes de succès, j'ai quand même tapé un cran au-dessus encore avec Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, élu coach de l'année en Angleterre, où il a signé le doublé championnat et Ligue des Champions. Croyez-vous qu'il s'exclamerait comme tout être normalement constitué ?
Je suis le maître du monde !
Non, il boude, il est comme ça, Pep, jamais content. Monsieur Guardiola, une prime d'1 million d'euros pour vous, faut signer là. Ah, laissez-moi tranquille, je suis pas content. Il est comme ça, Pep, il est comme ça.
Sans oublier nos chroniqueurs toujours contents. David Castello-Lopez, vous nous racontez les origines...
Du t-shirt.
Du t-shirt, oui, c'est pour exactement. Ça que vous l'arborez fièrement.
Tout à fait.
Mais fièrement, je dirais pas fièrement, parce qu'on sent qu'il n'est pas à l'aise.
Difficilement.
Et vous portez jamais de t-shirt dans la vie ?
Pour dormir.
C'est votre pyjama.
C'est mon pyjama. Donc j'ai l'impression d'être en pyjama là tout de suite.
Oui. Bonne nuit. Avec Olivier Pouls qui remonte aux origines d'une recette.
Oui, d'un plat qui va vous faire voyager ce qu'est le rougail. Et plus précisément le rougail saucisse.
Stéphane, j'ai l'impression que vous ne répondez pas à la question. Vous ne savez pas comme moi, ce qui est une honte, parce que c'est un nom célèbre, le rougail saucisse, on n'en a jamais
c'est
mangé.
C'est un nom célèbre, mais je ne sais pas ce que
vous pouvez déjà déplorer un peu le sujet.
Un petit indice, ça vient de l'océan Indien.
Oui.
Ah, c'est un poisson.
C'est un peu plus. Ça vient à La Réunion.
Non, oui, c'est une spécialité réunionnaise entre autres. Oui.
Oui.
Nous verrons ça.
Vous connaîtrez la recette
tout à l'heure dans votre rubrique. En fin d'émission, mieux qu'une finale de la Ligue des Champions avec Pep Guardiola, Ronaldo et Messi. La lutte finale avec Pouls, Castello et Bibi. Mais tout de suite, où est passé Stéphane ? Je le cherche partout.
Bah, je suis là, Mathieu, juste à côté de vous.
Ah, bah parfait, puisque vous nous racontez maintenant la vie d'un artiste insatisfait, tellement insatisfait qu'il a même mis fin à sa vie. Bref, on va se marrer, puisque vous nous racontez Nino Ferrer.
C'est vrai qu'on est toujours dans une sorte d'entre-deux avec Nino Ferrer, entre l'humour et la tristesse. Il y a cette satanée Mirza, bien sûr, il y a Gaston et ce fameux téléphone qui sont, mais il n'y a jamais personne qui répond. Mais il y a aussi la nostalgie d'un sud qui va disparaître alors que c'était pourtant bien. Le spleen et le blues ne sont jamais loin derrière la nonchalance amusée qu'il affichait, comme pour masquer son ambiguïté, lui qui semble avoir toujours oscillé entre l'envie de prendre la lumière et celle de se fondre dans l'obscurité. Nino Ferrer, ou plutôt Agostino Ferrari de son vrai nom, a vu le jour en 1934 d'un père italien et d'une mère française née en Nouvelle-Calédonie. Il passe une partie de son enfance en Italie, où sa famille s'est installée durant la Seconde Guerre mondiale, avant d'arriver à Paris une fois la paix revenue en 1947. En France, certains se moquent d'Agostino dans la cour de récréation, de ses manières, de son français imparfait ou de son fort accent italien. Pour s'évader, le jeune garçon se met à la musique et au jazz qu'il découvre à la radio. Il commence à tâter de tous les instruments qu'il peut trouver, avant de développer une prédilection pour le banjo et la contrebasse. Il rencontre aussi un ami pour la vie, Richard Bennett, avec qui il fonde les Dixie Cats. Un groupe qui se fait vite un nom dans le milieu du jazz amateur, tournant dans les concerts étudiants et les cafés-théâtres comme le Vieux Colombier. Et vu que ses parents ne voient pas ses envies musicales d'un très bon œil, Agostino joue le jeu. Il passe son bac d'abord, il s'inscrit à la fac ensuite, où il se tourne vers des études d'archéologie qu'il poussera jusqu'à leur terme. Entre l'archéologie et la musique, il faut choisir. Il aime bien la nuit, il aime bien la fête aussi. Bah, ça sera donc la musique. Pour ne pas gêner des parents toujours aussi peu à l'aise avec ce métier de saltimbanque, il se choisit un nom de scène. Nino Ferrer est né. Et il se fait vite une place dans le petit monde musical parisien.
T'en vas pas comme ça.
Nino Ferrer accompagne la chanteuse américaine Nancy Holloway et sa belle voix, un rien éraillé, tellement caractéristique qu'il commence à attirer l'attention des maisons de disques. En 1963, le chanteur connaît son premier succès avec « Un an d'amour, c'est irréparable ».
Un an d'amour, les matins indolents, soir de pluie, les vacances et le vent.
Mais les malentendus commencent vite avec sa maison de disques Barclay, qui le balade de label en label et lui demande de céder aux facilités de l'époque en pleine vague yéyé à coups d'orchestration à la mode et de refrains pas trop compliqués. Déjà, Ferrer se braque, partagé entre son envie de percer dans le métier et une exigence intime qui lui interdit de transiger avec son art. Mais Ferrer a de l'humour. Et ça va sauver son contrat chez Barclay. En 1966, il est en plein concert à Saint-Tropez lorsqu'il remarque que le propriétaire du club cherche son chien un peu partout. À l'entracte, Nino Ferrer s'amuse à demander à toute la salle si personne n'a vu Mirza. Le public adore et de fil en aiguille, ce qui était une improvisation un peu potage devient « J'avais pas vu Mirza » qui connaît un succès monstrueux.
« J'avais pas vu Mirza »
La carrière de Nino Ferrer explose sur un malentendu qui va durer toute sa vie. Évidemment, il savoure ce succès à pleines dents, grisé par une célébrité qui correspond à son tempérament de flambeur. C'est le temps des conquêtes féminines, des belles voitures et des soirées d'anthologie, bien aidé par le succès d'autres tubes à l'humour gentiment absurde comme Le Téléphant ou Ohé un bon. C'est aussi le temps d'une anecdote qui en dit long. Lorsque sort la fameuse photo du siècle de Jean-Marie Perquier dans « Salut les copains », celle qui réunit les 46 plus grandes vedettes yéyées, Nino Ferrer n'est pas dessus. Il aurait dû l'être pourtant, mais il est arrivé en retard au studio. Un bel acte manqué qui sonne aussi comme un symbole, comme si Ferrer n'était pas à sa place au milieu de Johnny Hallyday, Sheila, France Gall et tous les autres. Derrière le strass et les paillettes, quelque chose ne lui va pas. Il reproche à l'industrie musicale de matraquer quelques titres au détriment de ses autres textes souvent plus sombres. Lui qui voit chaque album comme un tout souffre de se voir réduit à ce rôle d'amuseur. Alors Nino Ferrer quitte la France pour l'Italie où il rencontre là encore un succès fou, porté aussi par l'émission de télévision qu'il anime sur la RAI. Mais là encore, Nino Ferrer n'est pas satisfait. Il lui manque cette reconnaissance artistique qu'il poursuit désespérément. À chaque album, c'est le même phénomène. L'arbre cache la forêt, un tube écrase tout le reste. Quand Métronomie arrive dans les bacs en 1971, on ne retient que La Maison près de la Fontaine. Quand il sort Nino et Radia en 1974, tout le monde se pâme autour du Sud. La version française de South, une version écrite en anglais, alors que l'album explore des couleurs soul et rhythm blues, c'est ce single qu'il déteste d'ailleurs, qui emporte tout sur son passage, avec plus d'un million d'exemplaires vendus en France. Nino Ferrer est en permanence partagé entre la tentation de tout envoyer balader et le besoin de reconnaissance, tiraillé entre le mode de vie que ses succès lui permettent et une colère qui n'arrête pas de monter, contre une industrie musicale qu'il attaque de plus en plus ouvertement à longueur d'interview. Évidemment, son comportement lui ferme des portes et Nino Ferrer n'aura plus jamais le même succès qu'avec le Sud.
On dirait le Sud.
Il explore pourtant dans ses albums suivants une foule d'univers musicaux, du rock progressif au style brésilien en passant par le blues, et on y trouve quelques pépites comme « Chanson pour Nathalie », l'un de ses plus beaux morceaux écrit en hommage à l'une de ses admiratrices tuée dans un accident de voiture.
La vie c'est comme de l'eau qui coule d'une fontaine.
De plus en plus désabusé, Nino Ferrer disparaît médiatiquement dans les années 80 et vit presque tout le temps dans sa propriété du Lot, sans jamais vraiment trouver la paix. Il sent aussi venir les premières atteintes de l'âge. Son audition décline, ce qui le marque d'autant plus profondément qu'il a toujours composé à l'oreille, sans jamais apprendre le solfège. Au fil des années, Nino Ferrer devient de plus en plus amer, au point d'évoquer ouvertement son suicide auprès de ses proches. La mort de sa mère en juin 1998 est sans doute venue assombrir encore les idées noires qui ont fini par le conduire sur une petite route du Quercy, le 15 août 1998. Ce matin-là, Nino Ferrer s'est tué d'un coup de fusil à deux jours de son 64e anniversaire dans un champ de blé qui venait d'être fauché. C'était il y a 23 ans déjà, et c'est vrai, le temps dure longtemps.
Et toujours en été.
Et pour continuer à parler de Nino Ferrer, nous sommes avec Henri Chartier. Bonjour Henri.
Bonjour.
Bonjour Henri Chartier, vous êtes auteur spécialisé dans les musiques d'aujourd'hui et un peu d'hier, puisque vous avez notamment publié « Nino Ferrer, c'est irréparable » aux éditions du Bordelot. Et Nino Ferrer, un homme libre aux éditions Le Mot et le Reste. Nino Ferrer semble être un homme libre, mais que l'on a enfermé dans un genre musical qui ne lui correspondait pas forcément, n'est-ce pas ?
Oui, alors c'est-à-dire que stricto sensu, genre musical, pas tout à fait, puisqu'en réalité, vous l'avez raconté, hein, au fur et à mesure d'évolution de sa carrière, il va changer de genre musical. En réalité, on l'a plutôt enfermé dans une image. Ça a été pendant très longtemps, et ça va demeurer finalement, le chanteur rigolo, un peu à l'image de ce qu'a connu Henri Salvador. Hein. Et puis ensuite, il aura énormément de mal à se dépêtrer de cette image de chanteur amuseur qu'il avait forgé au cours des années 60.
Stéphane l'a raconté dans son récit, vous le dites dans votre livre, que Nino Ferrer se navrait que le public ne connaisse que ses tubes qu'il avait fini par prendre en grippe. On a l'impression que c'est un problème récurrent chez les artistes, mais chez Nino Ferrer, c'est vraiment quelque chose qui l'affectait profondément.
Alors oui, c'est souvent un problème récurrent chez les artistes. Hein. On a connu ça avec Françoise Hardy, avec France Gall, avec Alain Chamfort, qui avaient tendance à ne plus vouloir du tout rechanter leurs anciennes chansons. Mais c'est pas toujours le cas. Hein. On prend par exemple Christophe, il a toujours revendiqué Aline, ses premiers succès, les marionnettes, et il s'en accommodait plutôt bien. Chez Nino Ferrer, en réalité, ce qui lui posait problème, c'était qu'on ait, sur sa carrière discographique, toujours retenu que les chansons amusantes, alors que sur les mêmes disques, hein, si on prend les premiers EP qui sont sortis au début de sa carrière, on avait systématiquement deux morceaux amusants et puis deux morceaux qui représentaient davantage des chansons un peu plus sérieuses.
Téléphone, Mirza, Le Sud, et puis il y avait aussi... Mon copain Bismarck, que j'adore. Et...
Ça, c'est un goût personnel, Stéphane.
Et puis, je veux être noir. Non, mais c'est pourtant ces chansons-là qui permettent à beaucoup, encore aujourd'hui, de savoir qui est Nino Ferrer. Il aurait préféré être moins célèbre, mais avec un autre répertoire musical ?
Je ne suis pas sûr qu'il aurait préféré être moins célèbre, hein, parce que vous l'avez dit dans votre récit, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup apprécié, hein, de connaître le succès, qui est un succès qui est venu très tardivement. Il faut bien comprendre qu'en réalité, il faut attendre le quatrième single paru chez Barclay pour qu'en définitive, il commence à avoir un véritable succès. Ça a été véritablement des années de galère. Il a eu le succès seulement à partir de 30 ans. Et il était temps pour lui, finalement, de pouvoir bénéficier de toutes les facilités matérielles que lui offrait le succès discographique. Donc je ne crois pas qu'il aurait aimé être moins célèbre. En tout cas, ce qu'il aurait aimé, c'est finalement que les médias, que le public soient plus curieux et aillent voir ce qui était caché derrière les tubes.
Les phases B, en fait.
Les phases B. Et puis ce qu'il faut bien comprendre, quand on parle de succès, ça lui a aussi permis, hein, ce succès phénoménal qu'il a eu, ça lui a permis de conquérir sa liberté de création et de pouvoir continuer à produire des disques comme il l'entendait et comme il souhaitait le faire.
Il a commencé par le jazz, Nino Ferrer. Comment il s'est finalement retrouvé à chanter lui-même et à faire de la variété ?
Alors en effet, il a commencé par le jazz Nouvelle-Orléans, et puis finalement, quand son groupe s'est pris de plein fouet l'arrivée de la vague yéyé avec l'arrivée du rock'n'roll, ils se sont orientés plus ou moins vers le rhythm and blues. Ils ont été amenés, comme vous l'avez rappelé, à accompagner Nancy Holloway. Concomitamment, Nino Ferrer continuait à faire les cabarets et à aller se produire dans les cabarets. Et donc, finalement, quand on dit faire de la variété, alors là, il faudrait se mettre d'accord sur les termes, c'est pas tout à fait de la variété, en fait. Quand on analyse les tubes de Nino Ferrer des années 60, on est plutôt sur du rhythm and blues à la française, en fait.
D'accord.
Alors, j'ai raconté cet acte manqué le jour où Nino Ferrer rate la photo du siècle de Salut les copains, qui réunit tous les artistes des années yéyé. Nino Ferrer n'est pas dessus parce qu'il est arrivé en retard. On imagine aussi que s'ils avaient été Johnny ou Sheila, le photographe Jean-Marie Perrier les aurait attendus, non ?
Oui, c'est fort probable qu'on n'aurait pas pu faire la photo du siècle sans Johnny Hallyday ou même sans Richard Anthony. Oui, c'était assez amusant, cette façon finalement qu'il a eu d'esquiver quelque part la présence sur cette photographie. On pense en effet qu'il avait peut-être du mal à s'assimiler à cette génération-là.
Et lui, on sait quel regard il portait sur cette génération yéyé, qui était aussi ses concurrents. Il était amusé ou il était jaloux ?
Il était, je pense, ni amusé ni jaloux. Il trouvait cette, je le cite, hein, il trouvait ce mouvement musical parfaitement inepte. Il regrettait finalement que ce soit basé essentiellement sur des reprises. Il regrettait que finalement on ait plutôt affaire à des chanteurs ventriloques, hein, dans la mesure où on leur donnait à chanter des textes qu'ils n'avaient pas écrits, on leur donnait à chanter des chansons avec des orchestrations sur lesquelles ils n'avaient pas la main. Donc il avait finalement un regard assez sévère, hein, sur cette génération-là et sur ce style musical-là.
Nino Ferrer a une fin de vie tragique que j'ai racontée. Comment vous expliquez, vous, Henri Chartier, son geste désespéré ? C'est cette carrière qui tout saute à la fin, en quelque sorte, qui l'a conduit au suicide ?
Alors c'est toujours délicat, quand on parle de la mort d'un homme, de savoir réellement quels sont les motifs qui ont conduit l'individu à se supprimer. Il est certain, quand on analyse le caractère de Nino Ferrer, que c'était quelqu'un d'entier, c'était quelqu'un qui par moments pouvait être excessif, et qu'il va sans dire qu'à un moment donné... Peut-être que certains nombres d'éléments, tels que son rapport houleux avec le show business, une carrière qui finalement n'a jamais redécollé après le succès du Sud, hein, globalement à partir de 1975 et son dernier tube Le Sud, ça sera une constante traversée du désert, hein, avec des albums qui ne rencontreront aucun succès. Donc, difficile à savoir. A priori, il y a eu aussi un problème de médication. Il traversait un passage dépressif qui a été mal soigné, ce qui a conduit à ce geste irrémédiable.
Merci beaucoup Henri Chartier d'avoir été avec nous pour rendre hommage à cet artiste incompris finalement, qui était Nino Ferrer. Je rappelle votre livre Nino Ferrer, un homme libre, aux éditions Le Mot et le Reste, et puis votre dernier ouvrage Petites histoires secrètes et scandaleuses de la chanson française, paru aux éditions Jourdan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui n'étaient jamais satisfaits. Après Katsushika Okuzai et Nino Ferrer, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai de Pep Guardiola, le coach de Manchester City, peut-être le meilleur entraîneur du monde.
Vous vous souvenez, quand on était à l'école, pour ceux autour de cette table qui y sont allés, vous vous souvenez de cet élève tête à claque qui, lorsqu'il avait 18 à un contrôle de maths, soupirait
« Ça va, c'est pas mal !»
Et en se demandant où il avait perdu ses deux petits points, pendant que nous on se demandait pourquoi on avait 8. Eh ben c'est Pep. Pep Guardiola n'est pas qu'un stratège de génie, il est un stratège de génie jamais content. Il a pour enchaîner les victoires, ça ne lui va jamais. Une fois, alors qu'il entraînait le Bayern Munich après une victoire contre le Borussia Dortmund en finale de la Coupe d'Allemagne, alors que ses joueurs étaient en train de se chevaucher d'enthousiasme torse-poil sur un air de Rammstein dans les vestiaires, Pep, la mine renfrognée, convoqua les journalistes et déclara « Nous n'avons pas joué aussi bien que nous l'aurions pu. Mais vous avez gagné !» C'est pas ça l'important. Ah bon ? Ah bah faut qu'on lui présente Didier Deschamps alors. Oui, Pep Guardiola est un entraîneur à part, tout tendu vers l'excellence. Sa devise, si vous vous entraînez mal, vous jouez mal. Si vous travaillez comme une bête à l'entraînement, vous jouez de la même manière. Une force de travail étonnante, surtout quand vous bossez avec Stéphane Bern qui hier encore me disait pendant la pub...
J'ai dit que cette année, autant qu'on se prenne les jours fériés.
Pep Guardiola, c'est pas le même esprit. Il naît le 18 janvier 1971 à Santpedor, une petite ville catalane où tout le monde se connaît, où la boulangère t'appelle par ton prénom et où le garagiste est aussi le charcutier. Maman Guardiola est vendeuse, papa Guardiola est maçon, un véritable bourreau de travail qui s'acharne 10 heures par jour depuis l'âge de 14 ans. Les chiens ne font pas des chats, los perros non producen gatos. Le petit Pep ne tarde pas à trouver sa vocation. En gros, il y a deux types de gosses. Le contemplatif qui adore sa chambre et ses bouquins et quand vous lui dites « va jouer dehors », vous répond « non ».
Je relis Blanche-Neige.
Et le gosse hyperactif qui court partout. Pep est de cela. Son père raconte, il avait toujours une balle dans les pieds. Partout où il allait, il avait un petit ballon. Parfois, il oubliait même de rentrer manger. C'est là que les carrières de Pep et de Pouls ont commencé à diverger. Pour Pep, le foot est plus qu'une passion, une obsession. Alors forcément, le jour où il croise son idole, Michel Platini, et qu'il lui demande de lui dédicacer un poster et que notre Michel lui dit non...
Comme un connard.
C'est le drame. Pep fond en larmes et appelle sa maman. La suite, vous la connaissez. Pep débute sa carrière en 82. Premiers essais à la Masia, il n'a que 11 ans. Puis il intègre le centre de formation du FC Barcelone. Son palmarès est affolant. 6 championnats d'Espagne et une Ligue des Champions. Mais on a beau être un excellent joueur, il y a toujours une frustration. On reste un parmi 11. Ce qu'il faudrait, c'est que je sois les 11 à la fois, se dit Pep. Pour la stratégie, ce serait mieux. Et paf, il comprend que son destin, c'est de devenir entraîneur. Il commence modestement, prenant la tête des équipes réserves de Barcelone, mais 2 ans plus tard, il prend les commandes de l'équipe 1. Il devient le marionnettiste de joueurs comme Lionel Messi. Dès sa première saison, le Barça est champion d'Espagne. Il le sera durant 3 saisons consécutives et il remporte la Ligue des Champions, non pas une, mais 2 fois. Pep doit être hyper content, non ? Ben non. Non, ils ont tout gagné, il aurait pu tout gagner différemment, c'est ce qu'il se dit, en jouant encore mieux. Pour digérer cet affront, Pep décide de prendre du recul à New York, 1 an, avant de revenir plus fort que jamais au Bayern Munich. Prend-il un interprète pour traduire ses consignes aux joueurs quand il arrive en Allemagne ? Et non, c'est Pep Guardiola. Il embauche un prof d'allemand pour apprendre la langue de Goethe en 6 mois. Résultat, première conférence de presse, alors que toutes les chaînes de télé avaient prévu un interprète.
Ich liebe dich wie Apfelmus. Mein Herz schlägt wie ein Pferdefuß, wenn ich dich sehe.
Apprendre l'allemand en quelques semaines, voilà qui est proprement écœurant quand on sait que d'autres, qui l'ont pourtant étudié pendant des années, ne savent plus dire que « Allô, ich bin Stefan, ich liebe Schokolade ». Bon, au Bayern, que se passe-t-il pour Pep ? Il va avoir une petite phase d'adaptation, ça va pas coller tout de suite, penses-tu ? 3 titres de champion d'Allemagne consécutifs entre 2014 et 2016, l'occasion peut-être de laisser ses joueurs souffler un peu. Toujours pas, en 2012, il appelle Thiago Alcantara, oui le type s'appelle vraiment Thiago Alcantara, à la 77e minute et paf, la gifle devant tout le monde. Je pardonne si les joueurs ne parviennent pas à faire bien les choses, mais pas s'ils ne font pas d'efforts. Un ami journaliste, Marty Perardo, dit de lui, c'est un homme qui écoute plus qu'il ne parle et qui apprend plus qu'il n'enseigne, une sorte de Socrate en survêt. Très peu porté sur la déconne, en tout cas, après une victoire. Que fait-on quand on est un entraîneur normal ? On fonce dans les vestiaires retrouver ses joueurs.
Pour s'embrasser et se tripoter ?
Oui, ou si vous n'êtes pas gay, tout simplement pour célébrer la victoire, David. Pep, lui, je cite, ne s'accorde que 5 minutes pour célébrer la victoire. 5 minutes, pas une de plus. Ensuite, il passe à l'analyse du match et se prépare à la prochaine rencontre. Il sait pertinemment que le match parfait n'existait pas, mais il insiste, explique un ami. En 2023, Pep quittera Manchester City pour faire une pause, dit-il. Sauf que lorsqu'on creuse un peu et qu'on lui demande ce qu'il compte faire pendant cette pause, pêche à l'espadon aux Bahamas, snorkeling aux Maldives, il répond « Ah non, j'aimerais bien entraîner une équipe nationale, européenne ou sud-américaine, jouer la Copa América. » Le mec a vraiment de drôles d'idées de vacances. Et de lancer un appel du pied, le Brésil, ah non, je crois que le sélectionneur du Brésil sera toujours brésilien. Vous ne vous rendez pas compte Stéphane, mais si jamais Pep Guardiola devient le sélectionneur du Brésil en étant espagnol, ça ferait de lui le plus grand entraîneur de tous les temps. Et c'est ce qu'on lui souhaite. Au-delà du foot, il doit être pour nous un modèle de volonté, de dépassement de soi. Cette volonté de faire, c'est simple, je ne l'ai croisé qu'une seule fois dans toute ma vie. Le lundi de la rentrée, quand en s'asseyant dans ce studio, Stéphane a enlevé 2 crans sur sa ceinture et m'a dit
« J'ai repris le sport, j'ai la nutritionniste ce soir. Là, on met, là, c'est... Là, maintenant, on arrête les conneries, tu vois. »
Éternel insatisfait, vous aussi, Stéphane. On sent la même volonté, hein.
Oui. Vous feriez bien d'en prendre de la graine, Mathieu.
Ah, vous trouvez ?
Pas pour le régime, non.
Ah bah !
Mais un peu de volonté, quoi. Vous mollissez. Merci, Mathieu. C'était à 99% vrai. Il y a peut-être des choses fausses.
Tout était quasiment vrai, sauf sur David.
Ah oui, David, bien sûr.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure, Mathieu, de dire adieu aux insatisfaits pour retrouver des chroniqueurs qui, eux, sont toujours très contents d'eux.
Oui, chaque après-midi, dans cette dernière demi-heure, ils nous font remonter aux origines de notre quotidien avec un brio qui justifie a posteriori leur narcissisme. Olivier Pouls, aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous faites découvrir ?
Eh bien, je vais vous faire découvrir un plat que visiblement vous ne connaissez pas.
Non.
Qui s'appelle le rougail, et plus précisément le rougail saucisse. Là, je vais vous le mitonner.
Ça doit être pimenté, non ?
Il y a des versions qui le sont plus ou moins.
Très bien. Tout de suite, David Castello-Lopez nous entraîne aux origines de quelque chose qu'il porte aujourd'hui exceptionnellement. Vous pouvez le retrouver sur europe1.fr en vidéo, c'est le t-shirt.
Oui. C'est rare qu'il se passe une semaine sans que quelqu'un européen me fasse une remarque sur la façon dont je m'habille. Et cette remarque, hein, c'est toujours la même, c'est « Dis-moi, mais tu t'habilles toujours pareil ?» Ou alors « Haha, vestimentairement, t'es un peu le Mark Zuckerberg de la radio, hein, puisqu'il s'habille toujours pareil aussi. » Et c'est vrai, je m'habille toujours pareil. J'ai 2 pantalons Carhartt, un gris, un noir. J'ai 15 chemises H&M bleu ciel, taille small, slim fit, wrinkle free à 19,90. J'ai une paire de derby en nubuck marron avec semelle en caoutchouc et un manteau de demi-saison APC bleu foncé. Et à chaque fois qu'une des choses que je viens de citer s'use, eh bien je rachète exactement la même à l'infini. Alors pourquoi ? Eh bien parce que choisir des vêtements, c'est chiant. Vous allez dans un magasin et vous dites « Ah, c'est pas mal ce pantalon !» Alors vous allez dans la cabine, vous mettez un quart d'heure à enlever vos chaussures, ouais, vous essayez le pantalon et vous dites « Ah ben non, il faudrait que j'essaye en M !» Et du coup, c'est un quart d'heure de plus encore et c'est insupportable. Alors moi, je m'en vais toujours au bout de 10 minutes sans rien avoir acheté. Mais ça a un avantage de s'habiller toujours pareil, c'est que quand vous changez ne serait-ce qu'une petite chose, eh bien tout le monde remarque, c'est comme un petit événement que vous créez. Et j'en ai fait l'expérience aujourd'hui même, au début de l'émission, quand je suis rentré en studio avec le t-shirt que je porte en ce moment même, vous étiez quatre autour de la table et tout le monde a dit quelque chose. Olivier Pouls.
Mais je rêve où tu t'es changé.
Vous, Mathieu.
C'est la première fois que je vous vois en t-shirt, David.
Vous, Stéphane.
Vous sentez tout nu, non?
Voilà. Et surtout, Clémentine Portier-Kaltenbach, qui m'a gratifié d'une de ces blagues littéraires incompréhensibles dont elle a le secret.
Ça fait un choc, hein. Le Condor est devenu Cacatoès, là, regardez-moi ça.
Le Condor est devenu Cacatoès. Et moi-même, je vous le dis, j'ai l'impression d'être déguisé. Mais évidemment, aujourd'hui, si je me suis déguisé avec un t-shirt, c'est pour vous raconter les origines du t-shirt. D'où ça vient le t-shirt ? Eh bien, en fait, ça vient des sous-vêtements masculins américains du 19e siècle. L'ancêtre du t-shirt, c'est ce qu'on appelle les long johns, qui sont des sous-vêtements intégraux masculins qui ressemblent à des combinaisons et que souvent portent les personnages dans Lucky Luke, par exemple. Vous voyez, ils ont des long johns.
Dans tous les westerns.
Voilà, exactement. En plus, aussi, tout à fait, tous les trucs qui se passent effectivement à l'ouest des États-Unis au 19e siècle.
C'était des ponctueurs, quoi, à l'époque.
Exactement. Et quelquefois, ces long johns, c'était pas des combinaisons, mais c'était des ensembles séparés, pantalons et haut. Et le haut, en gros, c'était déjà un t-shirt. Mais il y avait deux différences majeures avec le t-shirt d'aujourd'hui. La première, c'est qu'il y avait souvent des boutons en haut. Pourquoi ? Eh bien, pour faire passer la tête, parce que les tissus extensibles, ça existait à peine. Donc, il fallait ouvrir les boutons, passer la tête et refermer les boutons autour du cou. Et la deuxième différence, c'est que, je l'ai dit, c'était des sous-vêtements. Et de la même façon qu'aujourd'hui, vous ne vous baladeriez pas en slip dans les couloirs d'Europe 1, ça dépend qui. Mais en 1890, vous ne vous seriez pas non plus baladé en t-shirt. Mais au début du XXe siècle, ces deux différences, elles ont été surmontées. On a commencé à mieux gérer les tissus légèrement extensibles qui font que le vêtement peut se déformer pour laisser passer la tête, puis revenir à sa forme d'origine pour épouser la forme du cou. Et deuxièmement, c'est devenu moins scandaleux de ne pas se couvrir de partout dans la rue. Et l'une des institutions qui a contribué à populariser le t-shirt, comme très souvent, c'est l'armée. Et plus particulièrement la marine américaine qui l'a intégré à l'accoutrement standard du marin américain. De là, c'est passé au monde civil. Et la première personne connue qui a utilisé le mot t-shirt à l'écrit et dont on peut retrouver la trace, eh bien, c'est Francis Scott Fitzgerald, l'écrivain, qui décrit le t-shirt comme un accessoire très courant des jeunes garçons de bonne famille. Il écrivait beaucoup sur ces gens-là, dans les années 20. Et déjà, dans les années 40, 20 ans plus tard aux États-Unis, le t-shirt, il est partout. Il y a des articles de presse de l'époque qui disent que les garçons à l'université, ils ont des armoires pleines de t-shirts, etc. Alors aujourd'hui, selon certaines estimations, il y a 2 milliards de t-shirts qui sont fabriqués dans le monde chaque année et une bonne partie d'entre eux qui sont vendus. Mais moi, dès demain, je remettrai ma chemise H&M bleu ciel wrinkle free. Alors vous pourriez me dire, tu pourrais au moins changer de type de chemise. Mais même pas, parce que quand j'essaye, ça marche pas. L'année dernière, par exemple, j'ai acheté une chemise légèrement différente en velours côtelé bleu marine qui m'a coûté une fortune. Oui. Et je suis arrivé dans ce studio et Mathieu, vous m'avez dit, tu portes une chemise noire ? T'es vraiment un gros naze. C'est une faute de goût de niveau nazi, sors de ce studio immédiatement.
J'ai dit ça, moi.
Tu es licencié. J'exagère un petit peu. Et j'ai dû batailler avec les ressources humaines d'Europe 1 pour être réintégré à cause de cette faute.
Je me souviens de ce débat. Voilà. Il avait lu GQ et dans GQ, on disait que chemise noire était un garde.
Cette chemise était bleu marine, très foncée.
On n'est pas de chemise noire, en fait. C'est une faute de goût, effectivement.
Par contre, on voit un t-shirt noir, ça c'est possible.
On a tout à fait le droit.
En tout cas, pas de risque. Demain, je remettrai.
Mais c'est dommage, mais c'est dans votre tête, cette idée que les t-shirts ne vous vont pas. Parce que ce t-shirt vous va très bien, par exemple.
Vous trouvez ?
Oui, ça va.
Ça va.
Ouais, on valide.
On valide. Merci beaucoup, David.
Mais on retrouve d'ailleurs toutes les origines de David.
C'est à moitié mes origines et à moitié les origines des choses. Hein, cette chronique, il faut le dire.
On retrouve Les Origines par David en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre avec Olivier Pouls qui va, nous a-t-il annoncé, nous mitonner la recette du rougail saucisse qui pose un problème puisque pour les jeunes qui nous écoutent, mitonner ça veut dire que vous allez raconter n'importe quoi. Alors je vous demanderai de ne pas dire n'importe quoi et de nous raconter la véritable histoire du rougail saucisse.
Non, parce qu'il y en a qui racontent n'importe quoi ici, c'est vous. Quand je vous parle tout à l'heure de rougail saucisse, vous avez quand même été jusqu'à me dire...
Mais le rougail saucisse, j'en ai entendu parler, je ne sais pas ce que c'est. C'est un poisson ?
Un poisson.
Donc, je ne sais pas, vous me mettez ça vient de la mer.
Rougail saucisse, un poisson. Un poisson en forme de saucisse. En... Je vais vous donner un petit indice quand même. Dans rougail saucisse, oui. Il y a le mot saucisse.
Oui, d'accord, mais ça pourrait être un terre-mer, excuse-moi.
Ceci dit, dans fromage de tête, il y a le mot fromage.
C'est ah vrai. Oui, c'est
vrai. Vrai. Ouais, et il y a tête. Ouais. Alors, le rougail saucisse, pour trancher le débat, est un plat originaire des îles de l'océan Indien, qu'on trouve dans la Réunion, sur l'île Maurice et Madagascar. Alors, le terme rougail provient de l'Indien, précisément du tamoul, et c'est un dérivé du curry. Le rougail, c'est une préparation qui ressemble très fortement à la préparation du curry, donc un mélange d'épices et d'autres ingrédients dont je vais vous parler dans un instant. Il existe plein de sortes de rougail, mais le rougail qui nous intéresse aujourd'hui et qui est la grande spécialité de l'île de la Réunion, où visiblement vous n'êtes jamais allé parce que sinon vous n'auriez pas pu y échapper, c'est le rougail saucisse.
Stéphane, vous n'êtes jamais allé à la Réunion ?
Si, je suis allé à la Réunion.
Et on ne vous a pas fait un rougail saucisse ?
Non. Non, non, on m'a fait un poisson grillé, je suis désolé.
Et d'où la confusion, peut-être. Oui. Mais non,
c'est vraiment la confusion. Non, non, ne mélangez pas. Pardon, Tarchon et serviette. Ça va.
Bon, je ne réponds même plus. Allez-y.
Alors, donc, ce plat qui est évidemment un incontournable dans chaque famille à sa recette ou ses recettes, qui sont plus ou moins pimentées, on va y venir dans un instant. Alors, on accompagne ce rougail saucisse d'un mélange de riz, de haricots rouges et d'épices qu'on appelle le zembrocal. Voilà, comme ça vous saurez tout. Et la base donc de ce rougail se compose d'oignons, de tomates, de gingembre, de piment et bien sûr de saucisse. Et donc c'est parti pour la recette du rougail saucisse. Est-ce que ça vous donne envie quand même?
Voilà,
là,
un curry avec en plus de la saucisse dedans, ouais. J'achète tout de suite.
Ah ouais, oui, ouais, mais moi c'est le piment, je peux pas.
Alors il faut y aller mollo sur le piment.
Ah bah ça, je vous
non, non, vous me ferez un plat pour les enfants, ouais, pour Stéphane, voilà. Et un plat avec du piment.
Vous êtes du genre de celui qui prend juste un petit piment dans le restaurant.
Je prends pas du tout.
Oui, bah dommage, parce que c'est quand même mal pour
ça. Moi, en Inde, je meurs le premier jour, oui.
C'est vrai que parfois,
j'ai l'hôpital, c'est le deuxième.
Alors, 500 grammes de tomates, on est en pleine saison, donc vous pouvez prendre de la tomate fraîche, un morceau de gingembre, 200 grammes d'oignon, une gousse d'ail, une cuillère à café de piment d'Espelette, qui est un piment qui n'est pas trop marqué,
ça,
voilà, justement pour pas. Alors, si vous voulez monter en puissance, vous utilisez piment un
oiseau.
Piment, voilà, exactement. Un petit peu de curcuma et puis de la saucisse. Et l'idéal, c'est d'utiliser une saucisse fumée parce que l'accord entre ce curry, ce piment et le fumé d'une saucisse de morteau, par exemple, ça marche extrêmement bien. Un peu d'huile d'olive et de sel. Et donc, vous allez cuire les saucisses dans un grand volume d'eau bouillante. On va émincer les oignons, les faire revenir dans un petit peu d'huile. On colore tout ça gentiment. On rajoute les saucisses coupées en morceaux pour faire revenir également. L'ail, le gingembre coupé finement. Les tomates qu'on a grossièrement découpées, qu'on a mondées auparavant, c'est-à-dire on a enlevé la peau, c'est mieux. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de laisser mijoter tout ça. Voilà, le piment va imprégner la sauce, le curcuma... Le petit goût un peu fumé de la saucisse. Et comme tous les plats mijotés, c'est meilleur le lendemain ou après avoir mijoté longuement. Vous accompagnez ça tout simplement de riz. Et vous êtes sur l'île de la Réunion. Voilà ce délicieux poisson, donc le rougail saucisse.
Tant mieux, heureusement que ce n'est pas du poisson. Je préfère de loin votre recette. Merci beaucoup Olivier Pouls. On retrouve toutes vos recettes sur le site d'europe1.fr.
Historiquement vôtre.
Pep Guardiola, qui écoute notre émission tous les jours, a récemment déclaré « Des battants, des tricheurs, des simulateurs. S'ils savaient jouer au foot, je recruterais sur le champ Olivier Pouls, David Castello-Lopez et l'autre con de Suisse. J'ajouterais, nous, si on savait jouer au foot, on ne serait pas coincé dans ce studio à se faire humilier par Stéphane Bern. Mais les choses étant ce qu'elles sont, procédons à la lutte finale. »
Vous connaissez le principe maintenant, la lutte finale, c'est une bataille entre Olivier, Mathieu et David. Mais non pas pour voir qui est le meilleur en histoire, mais qui est le moins nul. Alors, chacun droit à sa question. S'il y a égalité, il y a des partages avec une question. Olivier, Catherine II de Russie a régné, je vous donne un point d'histoire, de 1762 à 1796. Pendant cette période, voyez-vous, une épidémie massive de variole a fait de nombreuses victimes. Et on pratiquait la variolisation, l'ancêtre de la vaccination. On se faisait inoculer le virus et c'était souvent dangereux. Mais pour montrer l'exemple, elle a fait vacciner sa fille qu'elle n'aimait pas trop. Vrai ou faux?
Oui, c'est pervers, évidemment. Donc ce serait une manière d'immuniser, mais sans garantie que ça fonctionne. Voilà, une chance sur deux que ça marche.
Bah oui, à l'époque, on ne savait pas trop.
Le virus
ouais,
n'était
non,
pas
mais c'est tout
inactivé.
À fait.
On n'avait pas assez de recul. Ouais,
moi, je pense que c'est tout à fait possible.
Olivier. Non, c'est complètement faux, Olivier. Au contraire, on lui a conseillé de le faire avec son fils, mais elle a dit que ce serait honteux de ne pas commencer par elle-même.
Ah.
Et donc, elle s'est fait inoculer le virus.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Une fois fait, bon, elle est devenue fiévreuse, elle est clouée au lit avec des petites pustules. 10 jours plus tard, elle est sur pied et totalement immunisée. David Castello-Lopez, la question est pour vous. La boîte de Pandore n'était pas une boîte, mais une jarre. Vrai ou faux?
Vrai.
Il n'y a même pas le temps de la réflexion.
C'est une bonne réponse. Incroyable.
Oui, alors vraiment...
Pandore est une femme. Pandore signifie dotée de tous les dons. Elle se marie avec Épiméthée. Le jour du mariage, elle reçoit une jarre avec dedans tous les maux de l'humanité, avec l'interdiction de l'ouvrir, évidemment. Bon, je ne vais pas vous divulgâcher la suite, mais vous le savez, la curiosité fait qu'on ouvre toujours les boîtes ou les jarres. Mathieu Noël, bonne réponse, bravo Mathieu. Alors Mathieu, c'est
bravo maintenant, vous êtes tellement habitué à ce que je gagne, vous dites bravo Mathieu, c'est bravo David.
Ah, bravo David, oui. Vous aimez le cubisme, Mathieu Noël. C'est un mouvement qui est né en 1907 sous l'impulsion de Picasso et de Braque, entre autres. Et bien aujourd'hui, il existe un autre mouvement, le Rubik's Cubisme. Ça consiste à faire des tableaux en collant des Rubik's Cubes dessus. C'est vrai ou c'est faux?
Pourquoi j'hérite toujours de la question la plus con du quiz? Sachant qu'en art contemporain, on voit quand même des choses assez étonnantes, je dirais vrai.
C'est vrai? En 2005, l'artiste Invader a fait une Joconde avec des Rubik's Cubes. Il l'a vendue 480 000 euros.
Oh, comme quoi, en plus, ça paye.
Donc, la question qui va vous départager,
ouais,
entre David et vous, Mathieu, la réponse la plus proche remporte la lutte finale. Qui avait le plus gros calibre? Je vous donne la réponse. On le trouvait sur le Yamato, le plus gros cuirassé de la marine impériale japonaise. 72 800 tonnes à pleine charge et surtout armé de canons ayant le plus gros calibre qui n'ait jamais été monté sur un navire de guerre. Combien en centimètres faisait le diamètre des canons?
Le diamètre des canons?
90 cm.
90
cm, c'est du gros calibre en termes de diamètre.
Ah ouais, mais...
Non, je dirais 66 cm.
Vous gagnez?
C'était ouais. Quoi?
45,7 cm, soit un calibre de 457 mm. C'est des dimensions déjà impressionnantes.
Mais c'était sur les... Parce que moi, c'était le canon sur Terre que j'avais.
Et moi, j'étais sur le Yamato, évidemment, ce navire qu'on a tous bien
bravo,
connu.
Encore une victoire étonnante.
Mais effectivement, bravo Stéphane, merci. Historiquement, votre spéciale insatisfaction, c'est terminé. Qui de Pep Guardiola, Nino Ferrer ou l'artiste japonais dont j'arrive pas à prononcer le nom vous a le plus intrigué?
Écoutez, Pep Guardiola, d'abord parce que j'ai appris un nom. Visiblement, il a beaucoup de talent et il fait gagner beaucoup son équipe.
Bien sûr.
Demain, bah, écoutez...
On se retrouve au même studio, même heure, Stéphane.
Bah, écoutez, pourquoi changer une équipe qui gagne? Avec joie, mon cher Mathieu. En plus de nos pommes, il y aura des fleurs.
Oui. Des fleurs?
On réunit trois personnages qui l'ont dit avec des fleurs. L'artiste Georgia O'Keeffe, qui en a beaucoup peinte. Yann Rose Casimir, qui a été immortalisé une fleur à la main face à des hommes armés. Vous connaissez cette histoire?
Ben oui.
Et puis vous avez choisi qui?
Lewis Miller, dont les fleurs ne sont pas fanées parce qu'il est bien vivant, lui. Ah oui. Il est le Banksy des fleurs. Un street artiste qui fleurit New York. Vous verrez ça, même si je sais qu'à la radio, c'est compliqué. Alors à demain, les amis. À demain, Stéphane.
À demain, les amis. À demain, chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.